at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait, wait, wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous sommes le 11 mai 2024 et je suis en compagnie de Calypso.
Hello.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça fait longtemps que j'étais pas revenue sur cette émission. Mais,
ben, pareil.
Et... du coup j'arrive pas prête mais il faut pas le dire. Marion et Azura ne sont pas avec nous, mais elles nous ont préparé respectivement une chronique et un entretien avec un invité merveilleux qui répond au nom d'Ulysse et que je vous présenterai plus tard. Néanmoins, à mes côtés, j'ai également Alice. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Comment ça va aujourd'hui ?
Oh bah ça va, c'est le printemps, le soleil revient pas, mais c'est on vrai. Espère toujours. Il y a les petites fleurs qui poussent quand même.
On va directement passer à la chronique de Calypso. Calypso, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh ben, j'aimerais bien vous parler des jeux d'équitation et des jeux genrés plus particulièrement.
Ah !
Voilà, voilà. Donc, vous avez probablement déjà fréquenté durant votre adolescence une nerd du cheval. Vous savez, cette gamine qui fait de l'équitation et qui a fait de ce sport son entière personnalité. Une fois ses bottines déchaussées le samedi après-midi, un brin de paille encore dans les cheveux, elle se précipite sur l'ordinateur de la famille pour y insérer son jeu préféré. Un jeu de cheval, bien sûr. Bref, cet ado-là, c'était moi. Entre deux courses de voiture sur Need for Speed Underground 2 avec mon frère, je dévorais chaque jeu en rapport avec l'équitation, qui me permettait de prolonger un petit peu mon loisir onéreux à la maison, pour un coût quand même moindre. Si cette pratique, autant du sport que de ce qui l'entourait, s'est petit à petit diffusée, voire a disparu à un moment de ma vie, j'ai toujours une tendre pensée vis-à-vis de cette période. Et aujourd'hui, je nourris une autre passion récente, finalement, les Game Studies. Alors à force, une question me taraudait, pourquoi les jeux d'équitation ont disparu ? J'ai succinctement exploré la recherche, et j'ai trouvé intéressant de lier la pratique de l'équitation et celle du jeu vidéo chez les femmes, mais surtout les filles. J'ai commencé par prendre la licence du jeu de cheval que je préfère, Alexandra Lederman. Et il s'agit en fait d'une cavalière de renom en France qui a été la première femme à être championne d'Europe en saut d'obstacle en 1999. Avec ce point de départ, j'ai remonté le fil pour apprendre que ce n'est qu'en 1930 que les institutions ont abandonné l'interdiction de monter à califourchon pour les femmes, ce qui leur a permis d'acquérir un semblant d'égalité dans ce sport. Et j'insiste, c'est à niveau professionnel, hein, évidemment. S'il a fini par être assimilé aux femmes aujourd'hui, c'est probablement car trois quarts des licenciés en France sont des femmes, pendant que un quart des professionnels à haut niveau sont des femmes. Ouais, ça pue. Aussi, en 1960, l'accès au sport pour les enfants est démocratisé et va donc se propager dans les écuries. L'approche de l'équitation va évoluer, mettant l'équidé davantage au cœur de l'enseignement. On vient prendre soin de son poney avant et après son cours. L'enseignement est différent, en particulier à un moment où la pédagogie active émerge et est de plus en plus favorisée. Promis, quand j'ai lu l'article, c'était pas fait exprès, hein, que ce soit autant en lien avec mon taf. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de prendre soin de quelqu'un ou d'un animal est inhérent à ce qui est stimulé dès le plus jeune âge chez les filles. Le jeu fait partie du développement de l'enfant, donc forcément, quand on regarde les catalogues de jouets, ils sont genrés, histoire de bien apprendre aux garçons à être des garçons et aux filles à être des filles. Cela s'est forcément étendu aux jeux vidéo et on note une augmentation des jeux roses, donc c'était nommé comme ça dans un des articles que j'ai lus, courant des années 90. Peu de recherches concernant l'impact du marketing pour ces jeux existent, néanmoins, il ressort que les filles peuvent avoir des envies différentes concernant les jeux. Elles favoriseraient les interactions sociales, une forte narration, des personnages développés. Et Nintendo et Ubisoft, du coup, ont pris le marché et ils vont développer tout un tas de jeux bien genrés comme Cooking Mama, Léa Passion, Nintendogs, etc. on finit tout de même par remarquer que les jeux trop centrés sur un genre, donc celui des femmes, n'attirent que trop peu le public cible. Eh ouais, manque de peau. De plus, ils sont généralement très simplistes et donc peu adaptés au profil des joueuses déjà trop âgées pour ce qui leur est proposé sur le marché. Elles ont tendance à aller plus facilement vers des loisirs masculins, mais l'inverse se produit peu. Et c'est pour ces raisons que les jeux roses se sont amoindris et les jeux d'équitation ont connu malheureusement un sort similaire. Mais comment se dessine l'avenir des jeux de chevaux ? À partir du début des années 2000, l'équitation connaît un fort engouement jusque 2012, et cela concorde très bien avec la licence Alexandra Lederman qui a eu des sorties de 1998 à 2009, mais également à d'autres licences telles que Mission Équitation, Mon Cheval et Moi, etc. Si vous cherchez sur des sites de vente comme celui de la FNAC, pour des jeux similaires, il est possible que vous tombiez en majorité sur ces vieux titres. Les plus récents sont quasi exclusivement sur Switch, avec Whisper ou encore Horse Tales, ou encore sur mobile, avec Equestrian The Game, ou encore Rival Star Horse Racing. Il existe également Star Stable, par exemple, qui est l'un des rares jeux en ligne qui a survécu après les jeux roses. Leur point commun, la qualité. Ils sont en effet peu développés par rapport à leurs aînés, là où Game Design et Histoire avaient un peu plus de profondeur. Visuellement, c'est pareil, lorsqu'ils ne sont pas très enfantins, ils restent très laids par rapport aux plus récents des Alexandra Lederman. Je n'ai jamais trouvé aujourd'hui de jeu d'équitation aussi bon que les anciens. Et promis, c'est pas pour faire la vieille conne aigrie. Si j'ai ouvert Red Dead Redemption 2, a.k.a. mon jeu préféré, pour la première fois, c'était pour le réalisme qu'il vendait autour des chevaux. Et évidemment, je n'ai pas été déçu, à ce jour, aucun ne le détrône. Aussi bien pour la diversité des types de chevaux que leurs réactions, leur animation, le game design qui les entoure et j'en passe. Mieux encore, il a permis à une petite communauté de cavalières joueuses, un peu comme moi, mais pas vraiment comme moi non plus, de s'en emparer et de le modder pour en faire leur propre jeu d'équitation. Je disais pas comme moi parce que moi je vais pas jusque là, je ne sais pas modder. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper passionnant de voir que finalement aujourd'hui, il y a des gens comme moi qui ont eu honte de leur passion pour déjà l'équitation et en plus pour les jeux de chevaux encore plus niche quoi, et qui, du haut de probablement leur vingtaine, voire leur trentaine, ont quand même essayé de trouver des dupes de leurs anciens jeux d'équitation, et notamment en modant Red Dead Redemption. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Alice, tu avais des questions à poser ?
Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup déjà Calypso pour cette super chronique qui donne envie. Je me dis, mais je suis passée à côté de quelque chose quand j'étais gamine. Moi, pas du tout m'intéresser aux chevaux, en fait. Moi, j'ai commencé tout de suite avec des jeux où on a des grosses épées et yes, où on lance des boules de feu. Mais du coup, merci beaucoup et ça m'a fait penser, mais je connais un peu tes horizons géographiques. Je me dis, est-ce que tu as déjà lu ou entendu la chronique l'article de Martin Ringaud et Esteban Giner sur justement le cas du cheval comme modalité de déplacement.
Oui, je l'avais vu. Alors, je ne l'ai pas lu en entier. Il est dans la longue liste d'articles que je mets de côté et que je me dis, oh, intéressant ça. Et si je m'y penchais ? Mais oui, effectivement, je l'avais vu passer et je m'étais dit, oh purée, si j'avais été dans la recherche à ce moment-là, c'est carrément le genre de truc sur lequel j'aurais travaillé.
Parce que je pense que, en fait, je me souviens avoir, j'avais suivi tout leur processus de recherche avant l'écriture de l'article, où ils avaient fait beaucoup de streams justement sur différents jeux où il y avait des chevaux pour voir quelle était l'animation des idols, comment est-ce qu'on les personnalisait, comment est-ce qu'on les gérait, donc vraiment à relever sur tout un grand nombre de jeux avec des montures. Et ils avaient un peu varié, ils étaient quand même vraiment partis du cheval, mais il y avait quelques montures un peu atypiques. Et c'est vrai que leur grille d'analyse était intéressante, de se dire comment est-ce que le cheval au repos par exemple agit, est-ce qu'il est sur place, est-ce qu'il va brouter un peu autour, est-ce qu'il disparaît relativement vite aussi, ça il y a des jeux où on descend de cheval, le cheval disparaît, il faut le siffler pour qu'il revienne donc toute la matérialité aussi de l'animal, et je trouve ça assez intéressant justement dans cette perspective du cheval, du jeu d'équitation où le cheval est vraiment au cœur dans toute sa matérialité, dans son identité, dans même le fait que ce soit je connais pas les jeux du coup, mais j'imagine que ce soit un ami quelque part, enfin qu'il soit mis en valeur en tant qu'individu cheval, et à l'inverse dans les jeux RPG où c'est vraiment c'est la voiture que tu gares quoi.
c'est en ça que que Red Dead est vachement intéressant parce qu'il est un peu au croisement de ces deux choses-là. Je prendrais un peu comme contre-exemple Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. T'as des chevaux dedans et y a un pote en discutant qui m'avait dit « Oh là là, mais moi j'adore juste me balader à cheval dans le jeu, c'est super satisfaisant et tout. » Et moi je venais de jouer à Red Dead. Donc, donc j'ai fait, hein, j'ai tenté, sauf que la maniabilité c'est atroce quoi. Donc j'étais « Ouais bon, ok, je peux comprendre, déjà, Hyrule c'est magnifique !» Mais ouais. Le cheval, c'est une brique, quoi, dedans. À côté de Red Dead, il est pas du tout maniable. Et les jeux d'équitation, en fait, ton ou tes chevaux, hein, selon les jeux, c'est un peu le prolongement de ton personnage dans l'idée. C'est pas juste ton mode de transport, hein, forcément, sinon ce serait pas des jeux d'équitation. Mais tu peux le personnaliser très souvent. Enfin voilà, il y a plein de choses, tu peux développer ses compétences, etc. Et Red Dead, il est vraiment justement un peu au croisement de ces choses-là, parce que c'est quand même ton mode de transport principal. Hein. Si tu fais Red Dead à pied, pourquoi pas. Je ne juge pas, mais je demande à voir.
Esteban pourrait le faire. Hein. T'en parlais tout à l'heure, c'est tout à fait le genre de truc qu'il pourrait faire.
Ah, mais je doute pas qu'il y ait des gens qui soient capables de faire ça. Hein. mais par contre, ouais, tu t'en occupes, tu développes un lien avec, tu peux le personnaliser. Et c'est pour ça qu'il est hyper intéressant. Et dans la question de la matérialité, c'est aussi super impressionnant tout ce qui a été mis en œuvre pour rendre les chevaux hyper réalistes avec tous des trucs de motion capture et tout.
Les fameuses couilles.
oui.
Je l'ai dit un peu plus loin de mon micro, on sait jamais.
Oui, par exemple. Mon Dieu. si j'avais su que ça donnerait ça.
Je suis désolée.
Ah non, c'est incroyable.
J'y pense depuis tout à l'heure.
Ouais, d'accord.
J'ai pas joué à Red Dead, j'ai que cette ref.
Non, mais c'est une très très bonne ref, elle est acceptable. Dans Red Dead, ouais, ils ont vraiment fait un énorme taf. Et aujourd'hui, quand tu regardes, j'ai le souvenir de mon chéri qui jouait Assassin's Creed Valhalla, et je regardais les chevaux et je disais, ouais, ils sont jolis, mais encore une fois, à côté de Red Dead, il ressemble à rien le cheval. Enfin, je veux dire, il est très raide, très très raide, très rigide, et ça n'avait rien à voir, quoi. Donc voilà.
Et moi, je voulais juste te demander, vu que tu joues à un jeu de voiture à côté, moi, j'ai jamais fait Alexandra Lederman, mais je voyais ça un peu comme justement les jeux de voiture où tu sais, au début, tu as une voiture un peu pourrie, puis après, tu l'améliores et tout. Est-ce que c'est comparable à ça ou est-ce que non, t'as l'air de... Enfin, toi, quand t'en parles, t'as l'air de dire que il y a beaucoup plus... C'est presque un personnage qui t'accompagne, le cheval. C'est toujours le même, déjà, au fil de l'histoire.
Franchement, ça dépend des jeux. Ça dépend vraiment grandement des jeux. Mais en général, t'as quand même au moins un cheval principal qui est là avec toi tout le temps. Tu vas t'en occuper, tu vas faire, ça dépend des jeux, mais tu vas travailler avec lui. C'est vraiment... c'est une relation assez, exclusive. Enfin, il y a vraiment juste... c'est un duo, quoi. C'est un binôme. Et ça ressemble pas trop au jeu de voiture, pour le coup. C'est peut-être des jeux de chevaux de course, mais alors là, c'est encore plus niche. Et pour le coup...
La niche, ouais.
C'est la niche dans la niche. Mais pour le coup, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, ça. Donc, je pourrais pas dire. Mais on pourrait encore une fois comparer dans Red Dead Online, cette fois-ci.
Ah oui,
il
vrai.
Y a des modes de jeu avec les chevaux, dont un mode course. Et j'ai dit, mais en fait, ça, c'est Mario Kart à cheval.
Donc voilà, et est-ce que dans Red Dead ça fonctionne comme dans Zelda, justement tu vas choisir un cheval, il y a des chevaux mieux que d'autres qui sont plus difficiles à attraper?
Ouais, exactement, t'en as qui sont plus difficiles, t'as aussi un système de rareté de certains chevaux qui apparaissent qu'à certains endroits, t'as des comportements aussi qui sont différents en fonction de certaines races, de certaines caractéristiques, du type t'as des chevaux qui vont être favorisés dans les périodes où on est en train de se combattre, où il y a ça, parce qu'ils vont pas forcément avoir peur des bruits de balles, là où d'autres, ils seront peut-être mieux pour la vitesse, mais par contre, un bruit de balles, ils vont le jeter par terre. C'est en ça que Red Dead est vraiment hyper intéressant là-dedans.
Ok, super. Merci beaucoup, tu m'as presque donné envie de jouer à Red Dead Calypso.
Jouer à Red Dead.
Ouais, non, vrai, si. Mais j'avoue que les cow-boys, tout ça, c'est pas...
C'est particulier.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique sur les chevaux et les jeux vidéo, c'est trop bien. Merci infiniment.
Merci.
Et c'est au tour de Marion de nous parler du jeu Planet of Lana et de comment une de ses jeunes patientes se l'est appropriée.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu indé fort agréable qui s'appelle Planet of Lana. Il a été présenté il y a 3 ans lors du Summer Game Fest en 2021, donc édité par Thunderful Publishing et développé par Wishfully. On a enfin pu y jouer en mai 2023 sur Xbox, Steam et Switch à l'heure actuelle. C'est un jeu dont le monde est inspiré du studio Ghibli, et on voit bien dans les graphismes et dans les dessins qui sont entièrement faits à la main que cinéma est la référence principale de l'équipe de créateurs. Planet of Lana exploite bien tous les outils du cinéma, la cinématographie, la musique et le cadrage, pour créer son gameplay. Le créateur d'ailleurs dans des interviews explique qu'il s'agit d'un récit initiatique, qu'il savait dès le départ que cette jeune fille de 11 ans serait leur héroïne et que l'histoire s'est développée au fil des années. Il dit « Je trouve que c'est un beau contraste, cette toile de fond épique de guerre et d'invasion, avec ce personnage improbable qui entreprend un voyage très personnel, après avoir perdu sa sœur, sa seule famille, et qui finit par découvrir qui elle est dans le processus. C'est un genre d'aventure cinématique avec un gameplay amusant. » Effectivement, on perçoit bien la fibre du cinéma. Un peu comme dans l'animé « Le voyage de Chihiro », Lana va entreprendre un périple dans un paysage qu'elle découvre, faisant face à de nombreuses énigmes et défis. Ce voyage, immense, grave et complexe, comme dans Chihiro, se termine par un événement marquant. De plus, la bande originale du compositeur Takeshi Furukawa, qui a réalisé aussi, par exemple, The Last Guardian, est très travaillée avec des sons d'ambiance et des musiques qui accentuent certains défis. J'ai découvert Planet of Lana avec une adolescente qui avait peu confiance en elle, et qui se glisse très facilement dans la peau du personnage, un petit garçon, pour elle, qui cherche son frère. Le peu de dialogue dans le jeu et le peu d'explications laissent en effet libre cours à l'imaginaire, puisque dans le scénario du créateur, Lana, c'est une jeune fille qui parcourt une planète extraterrestre à la recherche de sa sœur, mais peu importe. Le jeu permet de se conforter tranquillement, car il n'y a pas d'ennemis en dehors de certaines étapes des énigmes, et de façon exploratoire au monde qui entoure Lana. Le jeu commence de façon agréable par une balade accompagnée des deux enfants qui permet de découvrir le monde en apprenant le gameplay. Par exemple le saut, la nage, les phases d'infiltration, l'interaction avec des objets. Très vite, l'un des deux enfants se fait kidnapper par des machines de métal qui veulent envahir la planète. À partir de là, Lana se retrouve seule à évoluer dans le monde. L'adolescente, qui joue, ressent l'abandon par les adultes qui laissent l'enfant errer, seul, et trouver des solutions. Elle doit donc se faire confiance, comme le personnage, pour avancer. L'avantage du jeu vidéo, bien sûr, c'est de permettre plusieurs essais si besoin, et ce jusqu'à la réussite. L'adolescente perçoit la tristesse de l'enfant qui vient de perdre son frère, et probablement, au vu des éléments graphiques, ses parents. En effet, le jeu fait le choix de miser sur la narration qui se laisse percevoir par les décors et les situations, plus que par les interactions entre les personnages. En fait, en termes de paroles et de dialogues, on a seulement les appels de Lana envers Elo, sa sœur. L'adolescente, elle, me parle beaucoup de sa famille et de la force des liens qui l'unit à ses parents, de la crainte de leur disparition. Ses propos portent aussi sur cette planète qui se trouve à certains moments menacée par l'invasion, passant d'un beau paysage coloré à des tons beaucoup plus sombres et métalliques. Les personnages ont beau ne pas parler, ou très très peu, le jeu arrive à nous faire ressentir toutes leurs émotions, même quand elles sont encore difficiles à penser. L'adolescente m'explique par exemple à un moment donné qu'elle est triste parce qu'elle sent que le personnage est triste et elle le ressent surtout parce que la manette vibre. Lana dans le jeu va rapidement trouver un compagnon, une sorte de petit chat, une créature extraterrestre qui s'appelle Mui. Cette créature lui apporte du soutien dans le gameplay. En effet, Lana le sauve des griffes de créatures métalliques et de robots qui peuplent désormais la planète et à partir de là, Mui en quelque sorte lui doit fidélité et entraide. La relation devient une forme d'amitié, le joueur pouvant prendre le temps de caresser son petit chat comme le fait l'adolescente. Il faut également se préoccuper de Mui qui doit pouvoir rejoindre Lana quand elle passe des niveaux. Une réelle attention à l'autre est nécessaire. En bref, c'est un très joli petit jeu d'aventure et d'énigmes puzzle, un jeu contemplatif et avec beaucoup d'émotions qui nous porte pendant environ 5 heures.
Eh bien, merci beaucoup Marion pour cette chronique. Nous allons maintenant passer à mon petit micro-trottoir habituel. Parce que mercredi 1er mai, je suis allée à l'un des événements les plus importants pour les personnes en âge de travailler, la manif de la Journée internationale des travailleuses. Je vous mets dans l'ambiance. Oui, comme tous les ans, depuis que je peux retourner en manif, je me suis mobilisée avec les 13 000 autres Lyonnais et Lyonnaises et les 150 000 autres Françaises et Françaises pour... pourquoi, en fait, je me suis posé la question... Enfin, moi, je sais pourquoi j'y vais, mais je me suis posé la question pourquoi les personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo étaient présentes à la manif ce jour-là. Pourquoi se mobilisent-elles en 2024? Je me suis amusée à les repérer et à me jeter sur LE pour leur poser la question.
Alors moi, actuellement, je suis étudiante dans le milieu du jeu vidéo, ouais. Dans une école, et c'est la merde. On a le problème pour trouver des stages, les fonctionnements de l'école, c'est pas terrible, tout ça. Ouais, c'est privé. Rien que nous, dans notre milieu, on voit déjà à quel point c'est la merde dans le milieu professionnel. Ça donne pas très envie de s'insérer au final.
Je dirais que c'est important pour plein de raisons, surtout dans le jeu vidéo, où on a des conditions de travail qui sont vraiment catastrophiques. Année après année, ça ne s'améliore pas. C'est vraiment entre le crunch, entre les gens qui restent pas longtemps dans l'industrie, le fait que, je le dis souvent, j'ai jamais croisé quelqu'un qui est parti à la retraite, parce qu'en fait, les gens partent de l'industrie avant de partir à la retraite, et tout ce genre de conditions-là, c'est vraiment... Il n'y a que des sujets qui peuvent être améliorés, quoi.
Bon, pour le coup, là, j'avoue, c'est un peu la réponse que j'attendais. Le crunch, les écoles privées, la difficulté à trouver ne serait-ce qu'un stage... Ouais, je m'en doutais un petit peu. Mais là, c'est un résultat monté que je vous ai présenté. Et en réalité, il y a toujours eu d'autres raisons qui ont été invoquées et qui étaient un peu plus surprenantes.
Je suis là pour revendiquer une réduction du temps de travail. La semaine de 4 jours. Les 28 heures dans la semaine. Ouais, les 32, on prendra. Bon. Et aussi la paix dans la paix dans les pays actuellement où il y a actuellement la guerre qui tue des civils, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Palestine.
Et c'est vrai que effectivement cette année il y a particulièrement la question du génocide en cours à Gaza.
Et puis la question de la contre-offensive contre les lois transphobes qui arrivent.
Et oui, c'était plus inattendu, mais les considérations des manifestants et manifestantes vont bien au-delà des sujets qui les touchent directement. Car ce sont bien des personnes sociales qui créaient nos jeux vidéo. Et il m'a semblé vraiment important de le rappeler aujourd'hui, vu que ça n'a pas l'air hyper clair pour tout le monde. Le 1er mai, c'est certes né de manifestations pour limiter le temps de travail, mais c'est vite devenu un élément de rassemblement mondial des travailleuses, parce que c'est nous, factuellement, qui faisons chaque jour tourner cette grosse machine qu'est la société. Parce que eux seuls, on est seuls, mais ensemble, on fait trembler les patrons. Et faire trembler les patrons, ça fait partie du taf des syndicats, notamment pour le jeu vidéo, du STJV, le syndicat des travailleuses du jeu vidéo, et de Solidaires Informatiques, que je suis également allée rencontrer.
On a participé récemment à Furax, l'événement contre le harcèlement en ligne. Voilà, on a financé un petit coup de patte, parce que c'est des choses qui sont importantes pour nous, la culture... du jeu vidéo, c'est aussi la culture qui rejaillit pour tous nos collègues. Je veux dire, moi, je vois mes collègues, ok, ils ont pas bossé dans le jeu vidéo, mais en fait, ils baignent dans la culture du jeu vidéo. Et donc, cette culture-là, elle impacte clairement à la fois nos conditions de travail et aussi, elle impacte toutes les relations sociales qu'on peut avoir. Et moi, une société dans laquelle on peut être bi, on peut être homosexuel, on peut être trans, on peut être... une femme, on peut être une personne racisée sans se faire harceler, sans se faire. En ayant les mêmes droits que tout le monde, c'est quand même sacrément mieux.
Après, moi, un point que je trouve important aujourd'hui même, c'est en fait deux choses importantes. La Palestine, sur laquelle on a pris position, et puis la question de la contre-offensive contre les lois transphobes qui arrivent. Donc ça aussi, ça me paraît personnellement important d'être là contre ça et de prendre part au mouvement et de le revendiquer même dans ces lieux de travail. Parce que les questions des discriminations transphobes, homophobes et globalement LGBTphobes sont omniprésente dans le monde du travail, et notamment dans le jeu vidéo, où on a des personnes concernées qui prennent cher, qu'on le dise. Après, on a des revendications plus jeux vidéo, mais qui vont potentiellement se manifester plus par des communiqués, par des actions en entreprise. Mais elles se rejoignent avec des revendications plus globales de lutte classique.
Et typiquement, nous, on avait parlé effectivement en tant que syndicat parce que un de nos pans de lutte importants, qui est peut-être un peu moins connu, c'est le contrôle sur le créatif sur les jeux, pour aussi arrêter que l'industrie jeux vidéo soit un instrument de propagande pour l'armée, pour le fascisme, ce genre de choses. Et au niveau du jeu vidéo, c'est important d'être là de toute façon à toutes les manifs, toutes les luttes, parce que justement, dans l'industrie, en ce moment, c'est très 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 tendu et le ton monte pas mal. Donc, c'est important d'être là aussi pour discuter entre nous, se rencontrer, passer un moment un peu plus sympa que déprimer autour d'une bière après s'étrangler avec son patron.
Et oui, les syndicats que j'ai interrogés défilent pour toutes les luttes. Parce que toutes les luttes impactent les créateuristes de jeux, de manière consciente ou pas. Si ces derniers et dernières n'ont pas forcément vocation à créer des œuvres militantes, le fait qu'elles éclosent au sein d'un système les rend automatiquement politiques. Je sais, hein, je reprends les bases pour la plupart d'entre nous, mais comme je disais, ces temps-ci, ça n'a pas l'air d'être clair pour tout le monde. Ça n'a pas l'air d'être clair pour les actionnaires fielleux qui prennent le jeu vidéo comme un simple asset financier, pour les journalistes autoproclamés ménestrels qui pleurnichent contre les bloqueurs de pub, mais ça n'a surtout pas l'air clair pour certains youtubeurs drosophiles à purin pseudo-clasheurs qui ont assez de temps libre pour harceler des podcasteuses pour la simple et unique raison qu'elles existent et n'ont pas le même avis que lui, ce qui, comble du comique, se trouve être un acte hyper politique. Ignoble, mais politique. Manifester est politique, sexualiser un personnage principal féminin est politique, s'exprimer sur Internet, c'est politique aussi. Mais malheureusement, s'il semble toujours aussi dangereux de prendre la parole sur un sujet qui nous concerne quand on est une femme, il devient de plus en plus dangereux de manifester. Ce 1er mai, j'ai vu la police nous agresser pour mieux nous diviser, nous décourager. Sur son site, Amnesty International dénonce ceux qui craignent le changement et veulent entretenir les divisions. Et c'est ça qu'on a face à nous. Des gens violents qui craignent le changement, que ce soit en manif ou sur Internet. Ça fait plusieurs semaines que des relents de Gamergate remontent jusqu'à nous, je pense qu'on a dû mal fermer la poubelle la dernière fois. Ou alors ce sont ces petits fafans qui se sentent de plus en plus à l'aise dans le climat politique actuel où il vaut mieux banaliser l'extrême droite que dire que la France est un pays de racistes. Sur son site, à nouveau, Amnesty International définit les manifs comme des outils précieux pour tenir tête aux autorités et rappelle qu'elles sont à l'origine de nombreuses avancées sociales dans le monde. Et bah c'est ce qu'on va faire. Dans la rue comme sur le web, on va continuer à tenir tête, ensemble. Merci à toutes les personnes qui m'ont répondu, merci au syndicat des travailleuses du jeu vidéo et à Solidaire Informatique, et merci à vous de m'avoir écouté.
Eh ben, merci beaucoup, Queen, pour ce super micro-trottoir, comme d'hab. Et franchement, je trouve ça trop cool de les mettre en valeur, parce que c'est vrai que... On n'en voit pas beaucoup en manif. Enfin, déjà, moi, là où je vis, il n'y a pas énormément de gros studios de jeux. Donc forcément, on les voit pas. On les voit pas en manif. Ou alors, ils sont très bien cachés, mais voilà. Et même, en tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai du mal aussi à les voir. Mais c'est trop, trop cool de pouvoir leur donner un peu de visibilité, leur donner la parole. Et surtout, comme tu dis, de montrer qu'ils ont des considérations, des revendications. Ils ont des revendications qui vont bien, bien au-delà du simple milieu du jeu vidéo. Et je pense que c'est ça qui est aussi important à retenir. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même un milieu... attention, on enfonce des portes ouvertes. qui est un peu particulier. Et qui est justement peut-être pas... Enfin voilà, la culture de la manif, tout ça... Pour avoir certaines connaissances un peu éloignées, mais qui sont dans certaines grosses boîtes de jeux vidéo, c'est pas... Enfin voilà, aller en manif, c'est pas forcément dans leur planning de la semaine, ouais, quoi. Donc c'est cool aussi de voir que voilà, il y a des gens, en particulier du privé, qui se lancent aussi.
Et des jeunes, forcément dans... Les gens de l'industrie sont jeunes. De base, comme disait, il y a une personne qui disait qu'il connaissait personne qui était parti à la retraite. Ouais. Donc forcément, les personnes qui sont de l'industrie et qui manifent sont jeunes.
Mais rien que ça, je trouve ça ouf, en fait, que, ouais, effectivement, enfin ça, je le savais pas forcément, mais effectivement, quand on le mentionne, quand on le dit, quand on le verbalise, tu dis, ah oui, oui, effectivement, les gens dans le jeu vidéo partent pas en retraite comme ça, quoi, en fait, parce qu'ils sont déjà partis.
C'est ça, les gens crament avant, quoi, super.
Yes.
Alice, tu voulais nous dire quelque chose aussi ?
Oui, moi, je connais pas du tout ces mignons-là et j'avoue que ça fait pas du tout partie des choses à propos desquelles je me renseigne. Je veux dire, à part effectivement ce qui va arriver par hasard sur les réseaux sociaux, c'est pas. Je vais être un peu cliché et un peu agacé ceux de mes collègues qui ne font pas ça et qui ont bien raison de ne pas le faire, mais moi je fais un peu partie de la catégorie chercheurs dans leur tour d'ivoire qui qu'ont pas les épaules en fait pour supporter ce genre de truc. Mais c'est vrai que
c'est légitime aussi, hein.
On fait comme on peut, on va dire ça comme ça. Mais je trouve ça en fait super rassurant aussi d'entendre, il y a un peu ce côté en tant que joueur et joueuse où on voit des œuvres vidéoludiques et les personnes sont entre guillemets pas très concrètes, où on voit le gros studio derrière, on va parler d'un jeu d'Ubisoft, on va parler d'un studio, et de voir que oui, effectivement, derrière c'est des vrais gens, et c'est des vrais gens qui en fait qui pensent comme tout le monde, donc effectivement qui vivent dans la société, qui ont des préoccupations qui ne sont pas juste centrées. C'est un peu ce côté, on ne pense pas qu'à sa petite tronche quand on manifeste aussi. On pense plus large, à la fois sur nos conditions de travail peut-être propres, mais aussi sur l'état du monde, sur les conditions de travail des autres, et juste d'arriver à penser un peu plus large aussi. C'est ça qui est à la fois très rassurant et très inquiétant, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Mais...
mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo a hérité du pire de l'industrie informatique en termes de politisation des salariés, a vraiment hérité du pire de l'industrie de l'informatique et du pire de l'industrie de la culture et de la création, dans le sens où dans l'informatique, il y a tout ce côté non mais il faut finir le projet pour la team et tout, faut qu'on y aille et tout. Enfin, il y a ce côté très start-up nation qui intervient dans la modélisation vraiment des salariés, hein, c'est de la culture d'entreprise, on va dire. Et de l'autre côté, il y a le côté passionné des personnes qui travaillent dans la culture et dans la création en général. Et du coup, les deux ont fusionné ensemble, non pas pour le meilleur, mais j'ai l'impression pour le pire, pour les salariés en tout cas. Et le fait que, petit à petit, en fait, les gens se politisent. Et c'est aussi grâce, je pense, aux médias, aux journalistes qui ont fait des enquêtes, etc., aux gens qui ouvrent la parole... effectivement les gens vont se politiser de plus en plus tôt et vont savoir repérer les comportements qui sont pas normaux, parce qu'il faut le redire, vraiment travailler cruncher c'est légitimisé, mais ce n'est pas normal, c'est un mauvais calcul calendaire, c'est juste c'est pas possible de pousser les gens comme ça. C'est volontaire, mais ce n'est pas normal. C'est volontaire de la part des personnes, des supérieurs, quoi. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper important pour ces personnes-là de se retrouver aussi en manif. Parce que des fois, comme je ne sais plus laquelle de vous deux disait, on peut être un peu isolé, même au sein d'une entreprise. On peut être la seule personne avec des revendications un peu politiques, avec l'envie d'aller en manif. Bah, au moins, quand tu y vas... même si t'es la seule personne de ton entreprise, tu n'es pas la seule personne sur place. Tu seras jamais la seule personne sur place, en fait. Et ça, c'est hyper important de se dire, ok, peut-être que dans mon entreprise de 10, 15, 100 personnes, je me sens seule, mais ici, là, on est ensemble, et c'est ça qui est important. Bref, je vous propose, si vous le souhaitez, de passer à la suite. Puisqu'on sort de manif, pourquoi ne pas allumer la flamme qui nous anime.
Pardon. J'ai cru que t'allais dire la flamme olympique.
C'est pourquoi je vous propose d'écouter le morceau Find the Flame de Masayoshi Soken, qui nous vient de Final Fantasy XVI.
Oh,
Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'entretien avec l'invité. Ce mois-ci, Azura est allée rencontrer Ulysse, membre fondateur de la revue indépendante Immersion, qui va nous parler de la presse vidéoludique, mais surtout de comment un média indépendant peut encore exister dans le contexte actuel.
Bienvenue Ulysse.
Bonjour.
On est ravis de t'accueillir et de pouvoir parler de cette revue qui existe au fil des années, alors qu'elle est assez... Elle est récente, mais en même temps, elle dure dans le temps. Elle est donc née en 2018 et elle a aujourd'hui 6 ans, donc 2018 qui est une année qui reste compliquée pour la presse vidéoludique. Et on va dire les complexités de la presse ont perduré dans le temps malheureusement. Et aujourd'hui, vous arrivez à exister et aussi à faire parler de vous et quand même à être rentable. En tout cas, on en discutera tout au long de cet entretien. Et donc la revue, il y a des articles qui sont disponibles sur Internet, mais elle est surtout papier et elle est financée via des Ulule maintenant. Ça, il me semble que j'ai juste sur tous les points, mais s'il y a quelque chose à redire, n'hésite pas.
À part la plateforme, déjà merci beaucoup de m'accueillir. Et puis tu as juste sur tous les points, à part sur la plateforme de diffusion qu'on utilise pour le financement participatif. Ce n'est pas Ulule, mais bien KissKissBankBank, voilà. Mais
c'est
assez anecdotique.
L'autre. Non, mais c'est important. Donc c'est KissKissBankBank, autant pour moi. tout d'abord, je te propose de revenir sur la création et la naissance du magazine. Comment vous est venue cette idée de créer un magazine autour du jeu vidéo, mais qui ne propose pas forcément des tests, mais plutôt des thématiques au sens large? Et j'aimerais que tu reviennes sur ces débuts, comment c'est né, et aussi comment s'est fait le choix des thématiques abordées, en tout cas de la manière de rédiger le contenu du magazine, plus que les thématiques en elles-mêmes.
Alors, moi, j'ai rejoint l'équipe d'Immersion un peu plus tard, mais j'ai écrit dans le numéro 1, mais à l'époque, j'étais simple contributeur. C'est des gens que je connais très bien, et puis on est maintenant une petite équipe. Donc, l'histoire d'Immersion, c'est que ça vient de la rencontre entre Mohamed Megdoul, qui est le fondateur donc, de la revue, et Angelo Carreri, qui était à l'époque étudiant en littérature, et qui en fait se sont réunis autour de l'idée. Mohamed avait cette idée de faire une revue. Lui, il venait plutôt du milieu des arts graphiques, etc., de faire une revue qui pourrait en fait traiter l'imagerie du jeu vidéo un peu à la même manière qu'on traite l'imagerie du cinéma ou du cinéma ou de ou des arts, je veux dire la peinture, la sculpture, etc., en se disant que finalement, il fallait ouvrir un espace pour pouvoir analyser toute cette imagerie qui, en fait, fait partie du quotidien aujourd'hui de millions de joueurs à travers le monde, voire de milliards. Et donc, voilà, il y avait cette idée de créer un espace et de créer un espace sur le papier pour essayer de faire un objet qui résiste un petit peu au temps. Donc, c'est sûr que il y a cette rencontre avec Angelo qui, lui, avait envie d'écrire sur le jeu vidéo depuis longtemps. Et ensemble, ils ont construit petit à petit et avec l'apport de beaucoup de gens au fur et à mesure, cette revue qui est un peu singulière puisqu'elle se situe un peu sur une optique un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir dans la presse vidéoludique, qui en effet était beaucoup basée sur l'analyse de jeu et la nouveauté, le test. Et nous, on a tout de suite, d'emblée, voulu prendre un positionnement qui serait plutôt de parler du jeu vidéo dans le temps, en prenant le temps d'analyser, en se disant qu'on allait parler peut-être de jeux qui étaient sortis depuis 10 ans, depuis 15 ans, ou de jeux qui venaient de sortir, et avec cette ligne éditoriale qui s'est construite, je pense, au fil des années, que moi, j'aime bien décrire comme ça, même si tous les membres de l'équipe ne seraient pas forcément d'accord, mais l'idée que, en fait, c'est une revue qui sert à raconter le monde à travers les jeux vidéo, et inversement, c'est-à-dire qu'on utilise des sciences sociales, de l'analyse d'images, pour pouvoir utiliser les jeux vidéo pour raconter des histoires qui nous enseignent quelque chose sur nous en tant qu'humains.
D'accord, je me permets une question qui pourra peut-être intéresser nos auditorices. C'est, on a parlé d'esthétisme, de sociologie aussi, mais est-ce que ça vous est arrivé dans la revue d'analyser également les dynamiques de gameplay qu'il y a au sein des jeux? Je sais qu'il y a par exemple des questionnements sur le fait de souvent tuer, par exemple, dans les jeux vidéo. Et est-ce que c'est des choses que vous avez eu l'occasion d'aborder, donc d'avoir des réflexions autour des boucles de gameplay et des règles de jeu qu'on crée sur ce support?
Ouais, en fait, ça serait difficile. C'est sûr que, comme ça, on peut dire que, en fait, c'est en disant que c'est une imagerie, mais en fait, le jeu vidéo a cette particularité que c'est toujours une modélisation avec des actions à effectuer, etc., et un gameplay, quoi, une interaction entre le joueur et l'ordinateur. Et donc, oui, c'est des choses qu'on analyse. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cheval de bataille, toujours qu'il y ait une partie de la revue qui soit dédiée à des analyses autour de ce que produit le gameplay, ce qu'il raconte de nous. Bon, il y a cette dimension, il y avait ce grand article sur The Last of Us dans le numéro 6 de Paul Sussman qui était vraiment bien autour de cette question de ce que le jeu me fait faire et cette dimension de tuer, pas tuer, etc. Moi aussi, j'ai écrit, par exemple, j'ai écrit un article dans le numéro 4 sur les jeux de gestion, les jeux de construction de ville, et comment, en fait, en essayant d'interroger comment la manière même dont ils étaient conçus, ça renvoyait à une certaine idée de la ville, une idée de la ville fonctionnelle qui renvoyait à des théories urbanistiques qui ont vraiment été fondamentales dans la construction de notre monde bien réel. Donc voilà, il y a toujours des allers-retours comme ça entre une dimension esthétique, une dimension de gameplay purement vidéoludique, en essayant toujours de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte concrètement.
Yes, je demandais la précision justement pour ceux qui se poseraient la question de est-ce qu'on ne parle que d'images, parce que le magazine est très beau, c'est un bel objet, hein. Je pense qu'il faut le, il faut le souligner, c'est peut-être même plus, j'appelle ça magazine, mais clairement on est plus sur ce qu'on a appelé pendant un moment les MOOC, hein. Donc entre le livre et le magazine, tellement l'objet est assez travaillé, et donc pourrait donner l'impression de ne s'attarder que sur l'aspect visuel, donc je me permettais d'approfondir ce point-là. Et donc, justement, vous avez créé un nouveau média en 2018 et le souhait de le faire en toute indépendance. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, donc, d'être indépendant? Et qu'est-ce qui a débloqué par la suite, la volonté de passer par le financement participatif? Car il me semble que c'était pas tout à fait le modèle de départ du magazine.
En fait, Immersion, c'est une revue qui a longtemps été tenue par une bande de passionnés. Concrètement, en fait, Mohamed, il a mis les sous pour imprimer le numéro 1 et faire la première charte graphique, etc. Donc tout ça, il a payé de sa poche. Et en fait, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, tout ça a été payé avec l'argent des numéros précédents. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, sur Immersion, personne n'a été rémunéré. On a sorti tous les 6 mois, puis il y a eu des pauses, etc. Mais en fait, tout ça a été fait sur un mode de fonctionnement qui était... y avait des graphistes qui maquettaient le journal à titre gratuit. Il y avait des auteurs qu'on recrutait en faisant un appel à participation globale sur les réseaux sociaux et qui nous envoyaient des propositions et on les lisait, on les éditait, on les corrigeait et finalement ça faisait un magazine. Et donc on a fait 6 numéros comme ça, 6 numéros dont on est très fiers et arrivé à un moment où la question de continuer Immersion nous faisait tous envie, mais on avait quand même envie de le professionnaliser, d'assumer aussi que ça faisait un certain temps qu'on était sur le marché, entre guillemets, et qu'on avait envie que cette revue, elle existe et qu'elle perdure, et que pour ça, il fallait envisager de de payer les gens qui participaient à sa fabrication. Et donc, c'est passé par, à partir du numéro 7, cette idée de refonder un petit peu tout le magazine, à la fois la manière dont il est fabriqué et la manière dont il est financé, et de passer par un financement participatif. Et donc ça a occasionné plein de changements de la manière dont la revue a été construite, à la manière dont elle a été défendue sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une revue qu'on a changée, dont la formule a changé à ce moment-là. Elle est plus épaisse pour correspondre plus au prix qui est conséquent, parce que c'est un objet qui est quand même cher, même s'il vaut l'argent qu'il coûte, ça coûte quand même 30 euros. Donc voilà, il y avait plein de modifications à faire et à penser pour se projeter dans un plus ou moins long terme avec cette revue.
Mais il n'y a jamais eu de volonté d'avoir des sponsors. Il y a toujours eu cet aspect indépendant dans la revue, de vouloir ne pas avoir peut-être de pression ou que sais-je.
En fait, je pense que en fait, c'est plus que personne. On ne s'est pas beaucoup battu pour avoir des sponsors, avoir de la publicité, etc. dans le magazine. Parce que pour nous, c'est très important d'être indépendant et d'avoir la possibilité de lire, de dire tout ce qu'on a envie de dire, de publier ce qu'on a envie de publier, etc. Après, je veux dire, le milieu de la presse vidéoludique étant ce qu'il est, on peut pas dire qu'on est refusé. Disons, on peut pas dire qu'on ait refusé beaucoup de personnes qui voulaient absolument nous financer. Et voilà quoi. En quelque sorte, c'est-à-dire c'est plus facile de se revendiquer indépendant quand personne n'essaye de t'acheter, entre guillemets. Je ne voudrais pas que ça soit une marque de bravoure, même si c'est important, on en est fiers, mais voilà, c'est quand même, c'est juste que c'est plutôt que c'est un objet de passionnés, fabriqué par des passionnés, qui prennent du plaisir à fabriquer un magazine ensemble, et qui mettent beaucoup de temps et d'énergie dedans, et qui ont envie qu'il continue, quoi. Mais dans ce sens-là, c'est indépendant, c'est plutôt collectif.
Effectivement, c'est important d'apporter de la nuance, mais c'est aussi toute la réflexion qu'il y a autour de la presse en général, du fait de est-ce qu'on reste sur format papier, est-ce qu'on passe sur le web, comme a pu le faire dans une certaine mesure, par exemple, je vais prendre Canard PC, hein, qui n'est pas tout à fait dans la même lignée éditoriale, mais qui était initialement papier et qui ensuite est passé PC. On a également les médias numériques qui ont évolué, je pense au cas de Gamekult. Enfin, tout ça, c'est un marché qui n'a cessé de bouger, qui malheureusement, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais c'est précarisé et est devenu quand même de plus en plus compliqué, comme tu l'évoquais, à être financé.
C'est sûr que et d'ailleurs c'est triste, c'est très triste que ça soit si difficile pour la presse vidéoludique aujourd'hui, et surtout qu'il y a un tel bouleversement, parce que en fait aujourd'hui les gens ils ne sont plus prescripteurs, quoi. La presse du jeu vidéo a perdu son statut de test, d'analyste, de réflexion aussi. Aujourd'hui les gens consomment et réfléchissent sur les jeux vidéo à partir d'autres médiums que le papier. Après nous voilà, on pense qu'il faut qu'il y ait quand même des espaces, que ça continue, des espaces où on continue de réfléchir sur le jeu vidéo. Et voilà, nous, on a l'ambition, des fois on réussit, des fois on ne réussit pas, de se dire que certes c'est une revue, mais c'est aussi un objet qui peut résister au temps, auquel on peut revenir, qui fait réfléchir. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de nos auteurs qui proviennent... En fait, c'est un mélange, quoi. Il y a des gens qui viennent plutôt du milieu universitaire, et puis il y a des gens qui sont des journalistes, qui sont passés par d'autres médias, et qui viennent dans Immersion pour écrire des choses qui, peut-être, n'auraient pas trouvé leur place ailleurs, quoi. Donc nous, voilà, on essaie de créer un petit coin qui est certes très niche, mais qui résiste un petit peu au temps.
Et cette remarque, elle est super intéressante quand tu parles de préserver... les contenus, les articles, hein, parce que dernièrement, j'ai lu quelques livres autour du jeu vidéo, et souvent on a des liens URL, et quand on les consulte, à moins de passer par Time Machine, qui est donc un outil qui est proposé par le site archive.org, que certains doivent connaître. Et la plupart des liens, en fait, si on passe pas par Time Machine, ils n'existent plus, en fait, parce que les sites, entre-temps, sont morts. Alors que c'est vrai qu'un livre, à partir du moment où il y a quand même des bibliothèques ou des personnes pour le posséder, il y a moyen que ça persiste dans le temps.
Ben ouais, c'est clair. On dépose scrupuleusement à la BNF, mais c'est vrai que voilà, on existe.
Ah, c'est intéressant.
On existe dans les bibliothèques des gens, et c'est vrai que voilà, il y a un truc très agréable à se dire que voilà, on est une forme d'archive aussi, même si on a la prétention aussi d'être un espace de réflexion. Mais voilà, en gros, et nous. Pour tout te dire, quand on a fait le financement participatif, qu'on a créé un Discord pour la première fois, qu'on a vu des 200, 250, 300 personnes venir, et certains d'entre eux dire « Ah, ben, je lis Immersion depuis le numéro 1, etc. Et » en fait, ça nous a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup marqué, quoi, parce qu'on ne pensait pas que ça existe. Enfin, quand on fabrique ces objets-là, on est souvent dans son coin, on travaille, et puis après on le livre, et après il existe en librairie, mais on n'a pas de contact forcément avec les lecteurs. Et donc là, c'était très agréable de voir que, en fait, ils existaient en chair et en os.
D'ailleurs, tout ça, ça répond un peu à ma prochaine question, mais je vais quand même la poser parce que je pense qu'il y a d'autres points intéressants. Qu'est-ce qui a motivé ce choix du papier? Donc là, on a parlé de la conservation, le fait d'avoir l'objet, mais est-ce qu'il y a une dimension peut-être plus économique à passer par le papier que par le numérique? Et sachant qu'il y a quand même quelques articles qui sont disponibles sur votre site, je ne sais pas si vous mettez encore des articles des dernières revues, mais en tout cas, dans les revues précédentes, il y avait quelques articles disponibles sur le site d'Immersion.
Alors, il y a vraiment deux choses. La première, c'est quand même, si on fait un objet, et c'est pour faire archive, etc. Mais c'est aussi et surtout parce que c'est un objet graphique qu'on veut beau et qui est un espace d'expression aussi pour toutes les pour les graphistes et l'équipe graphiste Quentin et Oscar qui là depuis 4 numéros font un travail vraiment magnifique quoi, même 5 numéros avec celui qui va arriver. Et voilà, et qui s'amuse avec aussi graphiquement en mettant en avant, il y a une grosse part dans le magazine autour des gens qui utilisent l'imagerie du jeu vidéo dans l'art contemporain, avec des portfolios, avec des illustrations, et ça donne vraiment un objet que moi je suis super fier de défendre parce que voilà, c'est beau quoi, et c'est vrai que ce type de choses, on peut l'avoir sur le numérique, mais ça ne sera pas exactement pareil que sur papier glacé avec quelqu'un, avec une équipe qui a pris beaucoup de soins à mettre tout comme un écrin, quoi, pour que ça soit vraiment agréable à regarder, à feuilleter, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, en fait, sur le plan économique, c'est vrai que c'est pour nous important de dire que en fait la revue c'est le résultat de notre travail et que notre travail il a un coût puisque c'est du temps passé à écrire, à rechercher, à éditer, à défendre et donc du coup voilà bah c'est plus facile pas dans une économie de la création de contenu où en fait les gens sont habitués à regarder des choses gratuitement. Nous, on assume aussi que, en fait, on vend un objet éditorial avec un début, un milieu et une fin, et qu'il a un coût, et ça nous aide beaucoup à le financer, parce que si on devait vendre la marque Immersion ou la production de contenu global, il faudrait passer par d'autres plateformes, faudrait construire une communauté. Engager, bref, tout un tas de trucs que pour l'instant on n'a pas fait. Peut-être que à l'avenir on se posera des questions de justement essayer de faire quelque chose qui dépasse la revue. On en discute, mais pour l'instant notre modèle économique il passe par le fait de se dire qu'en fait on est des vendeurs de livres une fois tous les 6 mois et qu'on va la défendre et que c'est comme ça qu'on va la faire poursuivre.
Eh bien, merci pour ces réponses. Je te propose de faire une petite pause, ainsi qu'à nos auditoristes, en écoutant une musique de ta proposition qui vient du jeu Full Throttle, That Thing Smell of Asphalt, de Peter McConnell et aussi le compositeur Gon Jackals. Vous écoutez Une heure et des pixels et vous venez d'entendre la musique Dead Things Smell of Asphalt du jeu Full Throttle, donc jeu de Tim Schafer si je ne me trompe pas, et dont la musique était composée par Peter McConnell et Gon Jackals. Ulysse, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce choix de musique et peut-être pourquoi ce jeu au final, hein, jeu qui demeure un peu ancien, et peut-être que pour les plus jeunes de nos auditoristes, ce jeu est donc sorti en 95, si je ne me trompe pas.
Oui, bah, c'est le choix de la nostalgie, tout simplement. Parce que moi, c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué avec ma sœur chez moi. Et c'est un jeu, That Thick Smell of Asphalt, c'est la musique de l'introduction du jeu. Et cette intro... où on voit deux personnages apparaître dans une voiture et ensuite il y a ces motards, etc. Bref, en quelques minutes, on installe une ambiance complètement délirante de motards en plein milieu de l'Amérique dans le futur. Cette intro, même si vous ne jouez pas au jeu, je vous recommande de la regarder sur Internet parce que c'est vraiment une masterpiece de mise en scène et c'est très 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 drôle à regarder.
Yes, bah merci pour cette recommandation. Et donc on va retourner sur le sujet d'immersion, donc la revue dans laquelle tu travailles avec toute une équipe. Et donc les derniers exemplaires, tu l'évoquais avant, ont connu une refonte graphique et éditoriale. Et qu'est-ce qui, au-delà de la volonté de financer le magazine autrement, a motivé ce changement graphique et aussi ce choix éditorial d'axer davantage les articles autour d'une thématique, même si il peut y avoir des articles qui sortent un petit peu de ce sujet.
Quand on est arrivé à ce moment où on devait faire un financement participatif, où on devait relancer la revue, on s'est posé autour d'une table et on s'est dit comment on fait une revue qui est meilleure que celle d'avant, même si, encore une fois, on est très fiers des 6 premiers numéros. Et on voulait un objet qui soit un peu plus luxueux parce qu'il serait vendu un peu plus cher. On voudrait un objet qui soit un peu plus épais. On voulait, la dimension éditoriale, que parfois, dans les premiers numéros, il y avait vraiment une dimension où ça partait un petit peu dans tous les sens, les articles, parce que... ils étaient écrits souvent par des gens qui venaient d'horizons très très différents. Donc on a assumé pour cette nouvelle version de faire appel à des gens qui étaient plus professionnels de l'écriture, quoi. Et d'ailleurs, à partir du numéro 7, vous allez voir, comme je le disais auparavant dans le podcast, on va avoir des plumes qui sont des journalistes reconnus de la profession, qui vont côtoyer des gens... tout aussi talentueux mais moins reconnu. L'idée de cette nouvelle formule, c'était vraiment d'essayer de faire une meilleure revue qui soit plus adaptée à cette dimension archive et réflexions qu'on avait, et qui laisse aussi plus d'espace à l'image, et qui soit plus facile et plus agréable à lire, quoi.
Yes. Et donc, on parlait des thématiques aussi. Comment vous déterminez ces thématiques ? Là, ça va faire quelques numéros, donc vous êtes avec cette nouvelle formule. Qu'est-ce qui va pousser tel ou tel sujet ? Donc là, on voit que la prochaine revue est orientée donc, sur la performance, donc c'est entre guillemets lié aussi au sport, et donc peut-être lié aux Jeux Olympiques. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y a potentiellement un lien qui peut se faire. Mais quant aux dernières thématiques, donc la précédente thématique était orientée sur les animaux et celle d'avant sur la jeunesse japonaise, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait qu'un sujet ressort plus qu'un autre si il ne fait pas partie de l'actualité ?
Bah, en fait, c'est des discussions, quoi. On essaye, d'ailleurs, ça fait partie du grand plaisir de fabriquer cet objet, c'est se dire en fait quelle thématique pourrait permettre de raconter plein de choses, quelle thématique pourrait nous ouvrir sur à la fois une dimension esthétique, une dimension réflexive, et donc voilà, donc sur le numéro 7, et aussi quelle thématique pourra intéresser les gens, parce qu'il y a aussi cette dimension là qui est à prendre en compte, quoi. Il s'agit pas de trouver que ce qu'on raconte est génial et que personne n'ait envie de le lire. Donc voilà, c'est un peu des discussions éditoriales, là, pour le coup, entre le comité de rédaction, le directeur, le rédacteur en chef, etc. Et on réfléchit et voilà, on essaye de trouver des choses qui sont fécondes. Par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question de la performance, même si aujourd'hui on le défend aussi comme étant quelque chose qui a rapport, on est en ce moment, c'est les JO, on en entend beaucoup parler, etc. Et donc, c'était intéressant de se poser la question à ce niveau-là. Mais la dimension de la performance, en fait, cette thématique, elle a été choisie parce qu'on a eu le sentiment, en réfléchissant à ce qu'il y avait eu dans le journal jusqu'à présent, qu'en fait, il y avait tout un pan des jeux vidéo qu'on avait assez peu exploré, à savoir les jeux compétitifs. Genre League of Legends ou Counter-Strike, etc. Les jeux de foot, quoi. Et en fait, parce qu'on est une revue un peu qui réfléchit sur les jeux vidéo, les jeux qui sont représentés dans nos pages depuis le début, c'est surtout des jeux indépendants et des jeux AAA, genre Red Dead, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à se dire esthétiquement dessus. Et donc, du coup, il y avait un peu ce manque, et donc on avait envie de s'interroger sur ces jeux-là, et l'angle de la performance, parce qu'il permet à la fois de parler de cette dimension un peu sportive, un peu, de ces gens qui dédient leur vie aux jeux vidéo, à pratiquer un jeu vidéo, et en même temps, dans la dimension un peu d'une performance, comment on incarne un joueur dans un jeu de rôle en ligne, un avatar dans un jeu de rôle en ligne, comment des concerts apparaissent dans des jeux vidéo comme dans Fortnite par exemple, comment il y a des gens qui font vivre des personnages sur des forums en ligne depuis des années juste à travers leur écriture. Bref, c'était un angle, une thématique qui nous permettait à la fois d'interroger la dimension sportive et e-sportive et de la performance dans ce sens-là, et en même temps d'ouvrir sur plein d'autres horizons du jeu vidéo.
Effectivement, donc pas forcément lié aux Jeux Olympiques, mais plutôt à une volonté d'explorer tous ces pans que vous n'aviez pas encore vus. Donc peut-être un jour un magazine qui parlera du speedrun, à moins que ce soit évoqué aussi dans la performance, le speedrun, dans le prochain magazine. Enfin bon, peut-être que je pose une question.
Évidemment que le speedrun, c'est dimension très importante de la performance. Donc, on en parle. Il y a tout un dossier avec les speedrunners de Fast and Fabulous et aussi un petit papier que j'ai écrit, moi, sur un peu... Je me suis posé la question, parce que moi, je ne suis pas un je suis pas speedrunner moi-même, mais ça m'arrive de regarder. Et c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui m'a toujours étonné, et c'est dans ces runs Any% là, comment les gens faisaient pour trouver les bugs, les glitches qui leur permettaient de sauter directement du début du jeu à la fin sans passer par les étapes intermédiaires. Et donc du coup, bah, je me suis un petit peu interrogé voilà, sur qui étaient les glitch hunters et quelles étaient leurs raisons.
Incroyable, super intéressant. Et d'ailleurs, vu qu'on parle du prochain numéro, je te propose de conclure cet entretien avec un peu de publicité. Donc, on peut retrouver le financement jusqu'à quelle date ?
Jusqu'au 21 mai.
Ok, donc jusqu'au 21 mai, on peut retrouver le financement sur KissKissBankBank. Donc, il y a toutes les informations, à savoir ben, déjà combien ça coûte hein, de financer le magazine, quand est-ce qu'il va être livré aussi, parce que ben, on finance, mais il n'arrive pas, pas à la clôture du financement, il arrive un peu de temps après.
Oui, pas vraiment, et, parce que là, aussi, il est déjà imprimé, enfin, il est déjà en cours d'impression, on a fini le magazine, d'accord, si tu veux tout savoir, la semaine dernière, là, mardi dernier, on a mis le dernier point, quoi, et là, il est parti à l'impression, donc il devrait être imprimé d'ici quelques semaines. Donc voilà, début juin, vous devriez le recevoir chez vous, enfin, peut-être un petit peu plus tard.
Yes, donc si la thématique de la performance vous intéresse, vous pouvez le commander. Si pour X ou Y raison, vous n'avez pas les financements ce mois-ci, peut-être qu'il y aura des packs comme ça se fait régulièrement lors de la prochaine campagne. Enfin, en tout cas, vous avez l'habitude de créer des packs justement pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de tel ou tel ouvrage, tant que les stocks sont disponibles, je pense.
Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que Immersion, nous, on fait cette campagne de financement participatif, mais c'est aussi une revue que vous pouvez commander dans votre librairie, la plus proche de chez vous. Voilà, on est diffusé dans toutes les librairies, donc apparemment, tout le monde peut la commander facilement, le numéro 7, le numéro 8, peut-être le numéro 6. Et voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, merci pour l'invitation. Et puis, ouais, je vous engage à aller voir un peu les extraits du magazine sur la page de financement participatif, les auditeurs. Et n'hésitez pas à la commander. Franchement, vous ne serez pas déçus. Elle est magnifique.
Eh bien, merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Donc, on retrouve, on va dire, les comptes d'Immersion un peu sur tous les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, sur Twitter, hein, vous y êtes. Hein. Est-ce que vous êtes sur d'autres réseaux, sachant que Twitter, bon, bah, on sait ce qu'il en advient petit à petit, pardon, X, hein, comme on dit. Donc, n'hésite pas à faire ta publicité sur d'autres réseaux si besoin.
Je crois qu'on a... Alors, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je crois qu'on a un compte Blue Sky. Je crois que... Et puis sinon, il y a le compte Instagram. Et le site immersion-revue où vous pourrez .fr où vous pourrez vous abonner à notre newsletter et être tenu au courant de nos actualités. Voilà.
Et merci beaucoup Azura et merci infiniment à Ulysse d'avoir pris de son temps pour répondre à ces questions. Mais il est désormais temps de passer à la chronique d'Alice qui va nous parler du jeu The Planet Crafter. Alice, c'est à toi.
Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc je vais vous parler de The Planet Crafter. Planet Crafter, j'ai trouvé deux noms différents, j'ai décidé d'opter pour The Planet Crafter, puisque c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Et il s'agit donc d'un jeu qui est sorti il y a environ un mois sur Steam, développé par Miju Games, un petit studio français indépendant qui compte deux personnes. Donc bravo à eux. À elle d'ailleurs. Dans le The Planet Crafter, vous incarnez un ou plusieurs, puisque le jeu est jouable en coop, condamnés, qui, au lieu de purger leur peine de prison, ont choisi d'être envoyés sur une planète lointaine pour la rendre viable, exploitation capitaliste s'il en est. Il faudra donc augmenter l'oxygène, la température et la pression, puis la biomasse, pour que la planète sur laquelle vous avez échoué soit viable pour les êtres humains, en gros, offrir un nouveau terrain de colonisation à l'entreprise qui vous a envoyé ici. À votre disposition, eh bien, seulement les ressources de la planète et les plans de machines que le programme Planet Crafter voudra bien vous envoyer. Vous partez d'un désert aride, sombre, inhospitalier et il vous faudra parvenir à une planète bleue, dotée d'une végétation luxuriante et habitée par autant d'animaux que possible. Les passionnés de jeux de plateau reconnaîtront une inspiration probable de Terraforming Mars et les fans de jeux vidéo une narration proche de celle de Outer Wilds, bien que beaucoup moins développée. En effet, si au début vous ne pouvez guère explorer cette planète, trop inhospitalière pour la réserve très limitée d'oxygène dans votre scaphandre qui vous fera mourir un nombre incalculable de fois à chaque fois que vous oubliez que vous ne pouvez pas respirer ici, vous pourrez au bout d'un moment partir explorer les diverses grottes et biomes qui apparaîtront au fil de la terraformation. C'est l'un des grands aspects positifs du jeu, il se renouvelle sans cesse. Les mécanismes au départ sont identiques pour les trois principales augmentations, donc oxygène, température et pression, à savoir récolter du minerai et construire des machines, mais évolueront rapidement pour vous obliger à explorer, pour trouver des minerais plus rares, pour automatiser vos productions ou trouver les plantes nécessaires à la progression. Le jeu ne vous dote pas au départ d'une carte, mais les paysages sont, malgré le désert, suffisamment variés pour vous permettre de vous orienter et de reconnaître leurs caractéristiques, et je dis ça alors que je suis connue et reconnue pour petit 1, mon sens de l'orientation tout pété IRL comme en jeu, et petit 2, ma capacité à m'étonner de la moindre fleur et donc à me perdre vitesse grand V à la recherche de différents petits trucs qui traînent. Technique, suivre un papillon. Et puis il y a ces ruines. D'abord les ruines du vaisseau, le vôtre, peut-être, et manifestement celui d'autres planètes crafters avant vous. Et puis d'autres ruines plus anciennes, moins technologiques, en pierre et pas en métal, qui n'ont pas la forme de vaisseau, mais plus de palais, plus mystérieuses et moins accessibles. Toutes ces ruines, technologiques comme plus anciennes, contiennent des objets pour faciliter votre progression, mais aussi des notes, des mails qui vous permettent de mieux comprendre l'histoire de votre présence sur ces lieux et du programme qui vous a envoyé là. Cette partie narrative est l'aspect du jeu le moins développé, mais cette partie est encore toute récente, et le jeu est toujours en développement malgré la sortie de la 1.0. Les mises à jour régulières rééquilibrent certains plans de machines qu'il faut débloquer, la puissance de certaines machines, et surtout rajoutent régulièrement des éléments narratifs. J'y ai joué il y a un mois environ, il y a déjà eu des nouvelles mises à jour. Pour autant, même sans ces changements, qui facilitent la progression et évitent quelques petits et brefs moments de frustration, j'ai été vraiment charmée par la capacité du jeu à se renouveler, à ouvrir des nouvelles portes d'exploration au fur et à mesure de la progression, et par l'arrivée toujours opportune de nouvelles possibilités, de nouveaux mécanismes, de type « Alice, on est en pleine galère d'iridium !» 10 minutes plus tard, « Ah bah voilà, on a débloqué la fusée qui attire les météorites d'iridium. Parfait !» En bref, si vous aimez les grosses machines, l'exploration et les petits papillons, The Planet Crafter est un jeu déjà captivant qui promet encore de belles évolutions, notamment du côté narratif. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Est-ce qu'il y a des chevaux de l'espace dans
Alors,
ton jeu
Alors, il y a mieux que des chevaux de l'espace.
Oh, les hippocampes de l'espace.
Non, mais c'est très en late. Mais le but, c'est quand même d'augmenter la biomasse au bout d'un moment. Et donc, tu peux aussi fabriquer des créatures. Et les créatures, tu les fabriques avec des morceaux d'ADN que tu trouves. Et donc, tu combottes tes morceaux d'ADN pour essayer de faire différentes espèces de différentes couleurs avec différents... voilà.
Waouh, ils ont repris les mécaniques.
Exactement,
de sport.
Il y a un petit.
J'allais dire, ouais.
Ça a l'air beaucoup moins évolué que sport, bah, mais cool. Voilà, peut-être prochainement.
Oui, c'est une partie du jeu.
Excellent. Bah écoute, il a l'air super incroyable. Ce jeu, incroyable.
Très généreux. Très généreux, très joli, très varié. Même si voilà, il y a un côté, tout n'est pas, tous les curseurs ne sont pas poussés au maximum, mais il y en a plein de différents, et donc ça, c'est quand même très chouette.
C'est un studio de deux personnes, comme tu disais au début de ta chronique.
C'est assez grave. Impressionnant, ouais. Pour deux personnes, voilà. Quand j'ai cherché pour la chronique, j'y ai pas cru. Je me dis, mais c'est pas possible, ils ont engagé d'autres gens derrière, parce que c'est assez impressionnant, ouais, comme travail.
Incroyable. Et ben, merci à eux, à elle, peut-être, et merci beaucoup à toi, en tout cas, de nous l'avoir présenté. Mais puisqu'on parle de jeu, le mieux, c'est encore de carrément jouer. C'est ce que Calypso... tu vas nous proposer de faire avec ton blind test un petit peu spécial, il me semble.
Eh oui, il va dans la continuité de ma chronique, on va dire. J'ai choisi la thématique des jeux de filles.
Yes.
Alors mettez des paillettes, du vernis à ongles bien rose, sortez vos Barbie, vos Bratz, vos poupées, tout ça. C'est parti ici, on est des femmes.
On est des vraies filles.
Eh oui. Normalement, vous connaissez.
Ah oui, ça me dit un truc. Merde. Star du Valley ? Non.
Non.
c'est pas Animal Crossing Happy Home
non.
Designer.
Non, non, non.
C'est un jeu sur DS ?
Oui.
Putain, ça me dit un truc.
Rien du tout.
Ah, Nintendogs ?
Oui.
Oh, bien joué.
Il y a eu le waf, il y a eu le waf dedans. C'est effectivement Nintendogs, c'est quand vous promenez le chien, voilà.
Oh, bah j'avoue, j'y ai jamais joué.
J'y ai joué de temps en temps sur les consoles de mes copines, donc...
Je me demande si ma sœur l'avait pas.
Quoi de mieux pour commencer comme jeu de fille qu'un bon vieux Nintendogs.
Ah bah tiens.
Alors, le suivant, c'est encore une fois un bon jeu de fille, mais celui-là, c'est le jeu de fille par excellence.
Les Sims ?
Non.
Oula. Est-ce que c'est Amour sucré ?
Non.
Putain. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
C'est
ah, est-ce
également
que ça va être
un jeu sur DS.
Un truc de designer, non ?
De mode, peut-être plutôt, non ?
Ah. J'avoue, j'ai fait une vidéo il y a longtemps sur les jeux vidéo pour filles, justement.
Ah.
Je pensais que ça allait m'aider, mais... Léa, passion ascenseur, c'est ça. Léa, réparatrice d'ascenseur.
Non, non, non. Mais c'est effectivement sur la mode.
Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait quoi comme jeu de mode sur DS ? Oh là là, j'en sais rien.
Un très
un
gros titre.
Looking,
Les Herbs ? Non. Ah, c'est pas un jeu japonais ?
La musique fait oui. Japonais, ouais.
Oui, où tu dois... Oui, 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 tu dois... Je vois ce jeu, en plus. J'ai les images, mais le nom, pas du tout. Où tu dois prendre la suite, enfin tu dois évoluer dans la mode et devenir la. Enfin,
ouais.
Truc habituel, hein. Je sais même, j'aurais pu l'inventer si c'était. C'est vraiment. Ah, comment s'appelle ce jeu ? Je suis sûre qu'il est dans notre vidéo, putain. Non !
La maison du style.
Ah, c'est ça ! Finaise, incroyable.
Et voilà. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, c'est vraiment un jeu de fille par excellence.
Ah,
et
ouais.
Celui qui le suit, c'est également un bon jeu de fille par excellence, mais qui a voulu quand même copier un petit peu certaines licences de jeux pour garçons.
Oula. Alors on sent déjà que c'est plus sérieux dans le saxophone.
C'est un peu plus masculin.
La basse, ouais. Qu'est-ce que ça va être ? Ouh. Il y a eu un petit beat de techno et il est reparti direct. Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un jeu très très rose.
Un Barbie ?
Barbie.
Un Barbie, effectivement.
Barbie détective.
Oui ! Agent secret. Agent secret.
Oh !
C'était du pif.
Oh ! Coiffé au poteau.
C'était pour sauver l'honneur, désolé. Sinon, je perds mon diplôme de
genre.
Vie.
Doit être les... C'est ça. On joue
alors,
notre genre dans ce jeu.
On est à combien là ? On est à combien de points
on
pour l'instant ?
On est à un partout, je crois.
Ouais, hein ?
Oui, du coup.
Oh là
c'est
là.
C'est ce qui me semblait, c'est beau ça. Le prochain, normalement, vous allez l'avoir assez facilement.
Les Sims !
Toujours pas !
Animal Crossing ?
Lequel ?
Happy Home Designer ?
Non.
Shit. Putain, il y avait quoi ? Leaf, New Leaf ?
Non.
Attends, alors Animal Crossing, la liste. Je connais pas les autres. Un autre Animal Crossing, les plages de Normandie. Animal Crossing.
Bon, je pense qu'on va quand même te donner le point pour Animal Crossing,
ouais.
Mais c'est Wild World, Let's Go to the City.
Oh punaise, j'aurais jamais trouvé.
Et alors, le dernier, si vous le trouvez,
Sims.
Vous êtes très très forte. Eh non, c'est toujours pas les Sims, c'est raté.
Léa Passion Psychologie.
Ah non. J'aurais pu mettre du Léa Passion, mais je sais même pas s'il y a des musiques autant.
Un jeu pour filles. C'est très calme.
J'imagine très bien un jeu où il faut s'occuper de son bébé, ouais.
Oh ! Ah oui, c'est pour ça que c'est calme, c'est le
c'est
moment
ça.
De la sieste ou un truc comme ça.
Ou du manger, tu vois, faut calmer un peu, un truc.
Ouais.
Il faut réussir avec...
Tu sens
tout... Je suis sûre que c'est sur Wii, et en fait ta manette c'est la cuillère en plastique pour réussir à nourrir ton bébé. Tu
oh,
lui en mets...
et tu dois la mettre au creux
c'est
de ton
ça, sinon
coude.
T'en mets partout dans ton... si t'en regardes mal la manette, tu lui en mets partout sur le nez et sur les joues.
ce qui est vachement plus marrant. Mais...
De pire en pire. Mais en tout cas, vous avez créé un truc, je pense.
Ce qui est bien, c'est qu'après, tu peux convertir le jeu avec un mode, tu peux faire la version iPad. Tu fais la même chose, mais pour les vieilles personnes. Trop bien.
Beaucoup trop de créativité par ici.
Bah écoute, on va monter notre studio.
C'est parti.
Cringe Studio. C'est nous.
Et non, c'était Alexandra Lederman.
Ah mais
5.
Oui, on aurait dû... Mais bien sûr.
Eh oui, l'héritage du Hara. Parce que dans les jeux Alexandra Lederman, souvent vous héritez d'un Hara, chose qui malheureusement n'arrive jamais dans la vraie vie. Hein. Il n'y a jamais une grande tante un peu lointaine qui, je sais pas, est décédée et vous donne son Hara comme ça. Et puis en général, ils vous font passer pour quelqu'un d'un peu précaire, sauf que bon, si t'hérites d'un
oui,
Hara, bon,
ça
voilà,
va.
Ça va.
C'était une tante inconnue.
Justement, les gens qui vont pas trop en manif.
Oui, c'est ça.
Et bah, ben, du coup, c'est Queen qui gagne.
Bravo.
Oh,
yes,
avec
j'ai
deux,
gagné
un,
fille.
Tu es une vraie fille. Félicitations
yes.
à toi.
J'ai la médaille des gonzesses, c'est bon. Allez.
Yes. Alice, tu n'es pas une vraie fille.
Ouais, voilà.
Je vais te la prendre aujourd'hui.
Je prévienne, je crois, la mairie pour refaire mes papiers d'identité que je dois refaire effectivement bientôt. En plus, je ne sais pas comment ça va se passer, du coup.
Ou que tu t'entraînes sur des jeux de filles type Cooking Mama parce que tu retournes un peu à la cuisine quand même pour être une vraie fille.
Ça va, j'ai le badge Overcooked et Cook, Serve and Delicious.
Ah.
Ouais, mais c'est presque plus technique, ça, comme jeu. Ouais.
Ouais, ça devient un peu trop technique pour une femme.
Il va falloir que je trouve un petit Léa passion vaisselle. Oh, quel enfer!
Oh mon dieu! Ce serait très très drôle par contre de lancer des jeux de filles, mais ironiques.
Merci beaucoup en tout cas, Calypso, pour cette virée au pays effectivement des paillettes, des arcs-en-ciel et des cacas de poney. C'était absolument merveilleux. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions Azura et Ulysse, une nouvelle fois Calypso et Alice, également Marion, mais également Lazare aussi, qui nous enregistre depuis tout à l'heure et qui nous écoute.
Et qui dit des bêtises.
Et qui dit des bêtises. Qui les écrit en tout cas. Nous nous quittons sur Spyro One Main Theme de Stuart Copeland, et ça vient évidemment de Spyro the Dragon. Merci tout le monde, et à la prochaine !